Moi, c'est André Limbouchmaï, au Kassai Oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
s'est passé. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Nous sommes, nous, très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, dans ce programme que vous propose la fréquence de la paix. Le lundi 4 avril dernier, il a été observé une situation tendue dans la capitale suite à la difficulté d'approvisionnement en carburant. Les stations-service à travers la ville province de Kinshasa ont été prises d'assaut par les conducteurs, motocyclistes, privés et autres pour tenter de se servir en pétrole, gaz ou autres combustibles. Entre-temps, certains opérateurs pétroliers ont multiplié des communiqués pour signaler que ce n'était pas une situation très préoccupante. Mais hier mardi, la situation a semblé revenir à la normale. Mais d'entrée de jeu, que vous a-t-elle inspiré cette situation? Si vous désirez participer à ces débats, composez le 081 890 49 69. Aussi, faites-nous parvenir vos commentaires sur notre page Facebook ou encore sur www.radiokapi.net. Jean-Claude Siala et Dandy concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Bienvenue à tous.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de l'émission.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons en ligne professeur Boboa Kayembe qui est avec nous. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Alors professeur Boboa Kayembe, vous êtes économiste. Quelles sont les causes endogènes et exogènes de cette situation?
Bon, les causes, tout d'abord exogènes, il s'agit en fait de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou la Russie et l'Ukraine. Cette guerre a perturbé les approvisionnements en Europe. Et comme nous sommes un pays qui vit des importations, nous importons des produits qui viennent d'Europe. Étant donné qu'il y a eu hausse des prix de ce côté-là, du fait qu'il y a rareté de produits suite aux mesures aux sanctions qui ont été prises contre la Russie, il y a rareté de produits dans la plupart des pays européens. Et qui sont fournisseurs de la RDC. Donc, on se retrouve dans cette situation de rareté et de hausse des prix. Donc, ça, ce sont les causes externes. Les causes internes, je crois que lorsqu'on est dans une situation de hausse des prix, ce qui arrive souvent chez nous, c'est que on prend acte de cette hausse des prix, on répercute cette hausse des prix à la pompe. Soit que bon, le gouvernement décide de ne pas appliquer ces hausses de prix pour des raisons qui tiennent au panier de la ménagère, c'est-à-dire que le gouvernement décide de subventionner les prix, donc il va réduire certainement, disons les impôts qu'il devait percevoir sur le pétrole. À ce moment-là, ils subventionnent le pétrole et on peut continuer à appliquer le même prix qu'avant. Ou bien ils décident de ne pas subventionner, les prix vont augmenter à la pompe et ça permet aux pétroliers de fonctionner dans un contexte où elles peuvent être toujours compétitives.
Alors déjà, le 16 mars dernier, on a assisté à une alerte parce que les opérateurs pétroliers avaient rassuré la population qu'une telle situation n'allait pas se produire. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement, selon vous, pour qu'on en arrive là? Parce que c'est comme si, bon, les gens, il y avait déjà une tension latente, mais qu'on n'a pas pu gérer.
Bon, c'est, à mon avis, dû au fait que comme les hydrocarbures leur prix est réglementé. Leur prix n'est pas d'emblée libéralisé, c'est-à-dire qu'ils doivent se concerter avec le gouvernement pour appliquer les prix. Il y a des prix qui sont libéralisés totalement, il y a des prix de 4 produits qui sont réglementés, dont les hydrocarbures. Donc, si ils ne sont pas convenus avec le gouvernement sur les prix, c'est ça qui a occasionné cette rareté de produits dans les stations d'essence.
Est-ce qu'il s'agit pas
à mon avis, ils ne sont pas convenus avec le gouvernement. Apparemment, les négociations ont continué et ils sont arrivés à un accord lequel je ne suis pas très au courant.
Est-ce qu'on peut conclure qu'effectivement des pétroliers ont réellement connu une rupture des stocks, ou bien c'est pratiquement un effet d'attentisme simplement par rapport à la guerre en Ukraine?
Rupture des stocks, je ne pense pas. Mais comme on dit déjà en Europe, tout le monde affirme en Europe qu'il y a les approvisionnements qui sont complètement perturbés. Et certainement que nous aurons aussi des perturbations des approvisionnements dans notre pays. Rupture, je ne pense pas, mais quand même, approvisionnement difficile, je crois que c'est ça.
Mais il faut tout de même reconnaître que malgré qu'il y a eu beaucoup de crises financières ces 20 dernières années, la RDC n'a jamais connu une telle situation comme par le passé, à l'époque d'Isaïre, où on voyait des files d'attente au niveau des stations-service. Alors qu'est-ce qui expliquerait ces longs silences? En tout cas, cette résistance de la RDC, cette résilience par rapport à la question, mais du coup, on n'a pas pu résister.
Bon, ça dit que par le passé, c'est une situation que je connais un petit peu.
Tout à fait.
Je connais un petit peu parce que j'étais en 2001-2002, j'étais ministre de l'économie, vice-ministre de l'économie, mais je m'occupais de l'économie. En fait, je voyais les pétroliers nous amener des structures de prix révisées. On discutait avec les experts. Et puis, bien souvent, on acceptait la révision de ces structures de prix. C'est sûr que si les structures de prix sont révisées automatiquement, il n'y a pas lieu que la situation puisse s'arrêter. Mais si les structures de prix sont bloquées, alors, les pétroliers, soit qu'ils vont arrêter les approvisionnements, soit qu'ils vont demander au gouvernement de pouvoir les subventionner. Donc, il faut un accord sur ces éléments-là. Donc, je crois que c'est ces situations-là qui occasionnent les difficultés que nous voyons dans le marché aujourd'hui.
Alors, reconnaissons tout de même qu'il y a cette difficulté de production des gaz localement. Et même le problème des raffineries, le fait que cela se pose avec acuité, ne redoutez pas que cette situation puisse perdurer.
Bon, vous savez que des grands pays producteurs de pétrole comme le Nigeria, ils connaissent la même situation, des pénuries dans les stations d'essence. C'est parce que le pétrole que nous produisons, Il n'est pas transformé localement. Il n'y a pas de raffinerie locale pour transformer ce pétrole. Ce pétrole est vendu à l'extérieur. Et nous achetons à l'extérieur des produits pour notre consommation. Des produits transformés à l'extérieur que nous importons pour notre consommation. Donc, nous n'avons pas une politique de raffinage local ici. Et même au Nigeria, où il y a une telle politique disons intense, ils connaissent aussi des difficultés. Nous devons nous attendre. Espérons que la guerre Russie-Ukraine puisse être courte. Si elle est courte, la situation va se normaliser. Mais je suis sûr que nous devons nous attendre à des hausses de prix.
Dans les cas contraires, il y aura hausse des prix et nous finirons par connaître une rupture des stocks.
Non, si on accepte la hausse des prix, bon, il n'y aura pas de rupture de stock. Parce que les pétroliers vont trouver leur compte et ils vont accepter de fonctionner dans ce contexte-là.
Mais les problèmes d'approvisionnement, parce que là où ils s'approvisionnent, il y a guerre. Et le fait qu'il y aura un problème, nous risquons de nous retrouver dans un cycle des pénuries.
Absolument, absolument. Je pense que ça risque d'être ça.
Voilà, professeur, nous vous gardons en ligne. Il est temps d'écouter les auditeurs qui sont avec nous dans cette tribune pour échanger sur cette question. Nous avons tous constaté la situation tendue, en tout cas le lundi dernier, et cette situation qui s'est observée d'ailleurs dans la capitale, mais sur certains commentaires que nous avons vus sur notre page Facebook, la situation s'est même reproduite au niveau de certaines villes dans l'ensemble du pays. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Emina qui est à Kinshasa. Bonjour Emina.
Bonjour Monsieur J.R., bonjour au professeur, bonjour à toute l'équipe qui nous accompagne et à tous les auditeurs de la radio Capi. Moi c'est Emina Mwanda depuis Bukavu.
Voilà, vous êtes avec nous, quel est votre commentaire?
Comment la flambée de prix d'abord de carburant en particulier sur le marché des consommations à RDC prend d'assaut à ces derniers temps, surtout à RDC, monsieur Jure. Nous savons très bien que les pays, la RDC...
Est-ce qu'au niveau de Bukavu, vous, la même situation a été observée? Est-ce que vous avez vu les stations d'essence être prises à chaud?
Vraiment, monsieur J.R., ici chez nous, c'est depuis un mois. Qu'est-ce que je peux vous dire? Depuis que la guerre était déclarée entre Russie et Ukraine, c'est par là que toute chose avait commencé à basculer. Et même les vendeurs de tomates, ils vous donnent même...
Comment ça provisionne les conducteurs, les privés, les motocyclistes à Bukavu, est-ce qu'ils s'approvisionnent à partir de quel de l'Ouganda, à partir de Burundi ou ailleurs?
Ici chez nous, monsieur Gire, nous importons tout, et même des tomates et des piments. Pourquoi pas maintenant les carburants? Il y a les stations service, ou soit les gestionnaires des stations service. Ça provisionne à partir de l'Ouganda et du Rwanda.
Merci beaucoup, Emina. Alors, on va prendre Simon. Simon, vous êtes à Matadi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, merci beaucoup. C'est Simon Tsiloulou depuis Matadi. Merci. Je crois que cette pénurie de carburant, telle que Kinshasa l'a vécu ici, ça n'a pas vraiment été comme cela. Pour deux raisons. La première, c'est que la proximité entre Angola, Mwanda et la province a fait que qu'on puisse vraiment avoir des stocks dans des dépôts. Deuxième chose, la montée, la recrudescence surtout des vendeurs de carburant dans des rues, dans des avenues, ainsi de suite, c'est devenu comme on vendait du pétrole autrefois. Même si le carburant là est à critiquer, ce n'est pas en bon état. Ce qui a fait que on n'a pas vraiment vécu les
affaires
dans les stations. Mais le problème se pose. Vous savez, ce que nous subissons, c'était l'imprudence des gens qui ont dirigé ce pays pendant longtemps. Et maintenant, c'est pendant ce longtemps-là, on n'a pas pris de disposition qu'aujourd'hui, on cherche des issues pour prendre des dispositions valables. Vous imaginez, dans notre pays, on ne souffrirait pas de pénurie de pétrole. Parce que, imaginez, moi je suis coordonnateur adjoint de la société civile de la RDC provinciale. Nous avons un team leader qui traite la matière de pétrole. Ils ont fait des enquêtes et ils ont même été dans des sociétés pétrolières ici. Nous avons la raffinerie de Mwanda. La raffinerie de Mwanda, vous savez que dans l'ancien temps, cette société a joué le beau temps de ce pays. Mais lorsque on a eu Perenco est arrivé, alors la mission était divisée. Si vraiment les autorités de ce pays aimaient ce pays, on aurait trouvé des solutions. Vous imaginez, raffinerie de Mwanda a pour mission de raffiner les produits légers. Et Perenco, c'est les produits lourds. Maintenant, Perenco, outre les produits lourds, c'est lui qui travaille pour la production. on produit les produits, et ces produits venus, ils commencent, parce qu'il y a des produits légers qu'on devrait directement envoyer à la raffinerie pour qu'ils soient raffinés ici et vendus. Maintenant, ils ont changé de système. Les produits lourds, le pourcentage des produits lourds, qui était presque de 60, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand les produits légers sortent en grande quantité? Ils vont les rendre lourds pour les revendre à Total en France, partout, pour aller faire, et puis nous les revendre cher. Alors qu'il faudrait simplement un convertisseur de moderne, de haut niveau. Si on les pique, nous avons été avec les autorités des raffineries de pétrole de Moanda. Si on pique un convertisseur de proportion très élevée à la raffinerie, donc la raffinerie va commencer permettez-moi la tautologie, à raffiner les produits même lourds. Comme ça, ils peuvent se partager les responsabilités avec la Perenco. Si raffinerie travaille les produits légers et lourds, ça va beaucoup apporter à la nation qu'elle ne continue à vendre les produits à un vil prix, et puis quand ces gens-là les rendent finis, nous les vendre, viennent nous vendre ça très cher.
Oui, oui, et Simon, pouvait... Simon, mais on sait tout de même qu'aujourd'hui, le Congo central détient un gisement important de pétrole en RDC. Le fait d'ailleurs d'avoir plusieurs entreprises qui ont eu le temps de défiler dans cette partie du pays pour exploiter cette matière. On peut citer les cas de Perenco, Surestream, Gulf Oil, Zaïre Gulf Oil à l'époque. Alors, pourquoi toutes ces entreprises n'ont pas eu comme obligation de pouvoir raffiner localement pour permettre à ce que la RDC soit à l'abri de ce genre de situations?
C'est comme ça qu'il faut voir que les autorités de ces pays qui ont précédé n'ont pas eu une bonne foi. Ils n'ont pas eu le souci de la postérité. Ils n'ont pas eu le souci de la jeunesse qui va venir plus tard. Parce que la Perenco s'occupe des produits lourds. Et ces produits lourds, c'est ça qu'on vend en France pour aller être raffinés. Ça se raffine là-bas et on nous les revend. La raffinerie de Moanda, qui est là, qui est devenue une vache blanche où il n'y a plus rien, les papas ont vieilli des retraitables parce que la quantité, la raffinerie a pour mission de raffiner les produits légers. Or, les produits légers, lorsque ça sort de la mer, l'entreprise qui s'occupe des produits lourds transforme même la petite quantité légère, il les rend lourds pour que la raffinerie qui est de la RDC de notre pays n'ait pas la quantité suffisante. Et la vraie solution pour faire marcher les choses, nous supplions les infatigables trouveurs de solutions des enfants du Congo, le président de la République, de mettre en place une commission d'étude à Perenco. Vous allez voir que les produits légers va augmenter et notre raffinerie qui a la capacité de raffiner que les produits légers peut commencer à servir la nation. Ou sinon, alors ce pays est grand, nous avons l'argent, on achète un convertisseur de grande capacité pour que nous-mêmes nous commencions à raffiner même les produits lourds qui sortent de la mer. Cette façon va faire en sorte que la République démocratique du Congo ait sa raffinerie qui transforme et les produits légers et les produits lourds. Le piège fait que nous avons cédé les marchés au privé qui transforment et qui produisent les produits lourds pour l'envoyer là où ça va et ils se font de l'argent. Nous-mêmes, nous sommes en train de souffrir. Il va falloir la société du Congo, la raffinerie du Congo, qui est raffinerie de Moanda, soit rééquipée, soit qu'on le dote d'un convertisseur des produits lourds,
voilà,
à léger.
Merci beaucoup, Simon. Comme le disait tout à l'heure notre invité, il faudrait une politique de raffinage. Alors on va voir avec Peter qui était à Kinshasa. Peter, bonjour. Babidi.
Bonjour Monsieur Gir, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et vous saluez l'invité, le professeur également, Simon Chilolo qui vient à peine d'intervenir.
Alors pour vous, quelles sont réellement les vraies causes?
Oui, Monsieur Gir, je voudrais d'abord préciser une chose, dégager une différence entre la hausse des prix et la flambée aussi, la pénurie des produits pétroliers. Quand on parle de la pénurie, Monsieur Gir, c'est-à-dire il y a un problème d'approvisionnement. La pénurie vient lorsqu'il y a un problème d'approvisionnement. Et ce problème d'approvisionnement résulte de la gestion des stocks. Parce que s'il y a eu pénurie, c'est parce qu'il y a eu mauvaise gestion des stocks au niveau des opérateurs pétroliers. Mmh. Alors, quand il y a eu problème d'approvisionnement lié à la gestion des stocks, et cela a causé maintenant comme problème ne pas répondre à la demande des clients. Parce que quand on gère la gestion des stocks, monsieur Gilles, la gestion des stocks repose sur deux objectifs. Le premier objectif, c'est celui de répondre à la demande des clients, c'est-à-dire savoir quand s'approvisionner, à quelle quantité s'approvisionner pour satisfaire les clients. Deuxième objectif de la gestion des stocks repose sur faire des économies. Faire des économies, c'est-à-dire éviter la rupture des stocks. Pour arriver à éviter la rupture des stocks, il faut faire des économies et aussi minimiser les coûts de transport. Parce que quand on veut penser nécessairement à la gestion des stocks, il y a les coûts liés au transport et aussi les coûts liés à la rupture des stocks. Donc la situation qui a prévalu au niveau de Kinshasa, il y a eu problème de l'approvisionnement qui est basé sur la mauvaise gestion des stocks au niveau des opérations pétrolières.
Peter, parce que c'est une préoccupation quand même qui tient la route. Le professeur Boabo Kayembe, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui les opérateurs pétroliers ont un problème de gestion des stocks?
Oui, certainement. Ils ont un problème de la rareté des stocks. Hein, parce que en fait, comme on l'a dit, ils s'approvisionnent en Europe, dans des pays comme la France, l'Allemagne, etc. Mais si de ce côté-là, les stocks diminuent, c'est sûr que la quantité qui leur sera fournie va également diminuer. Donc je crois qu'ils sont dans cette situation-là pour le moment.
Parce que même si ils se retrouvent en pénurie, en difficulté avec les stocks, même s'ils haussent les prix comme les uns le souhaitent parmi des opérateurs pétroliers, et bon, la difficulté de s'approvisionner se poserait toujours.
Ah, certainement. La difficulté va toujours se poser et va toujours induire des augmentations des prix. Parce que lorsque les stocks diminuent, c'est la loi de l'offre et la demande. Lorsque les stocks diminuent, les prix augmentent. Donc, si ils continuent dans un contexte où les stocks diminuent toujours, les prix vont toujours augmenter. À moins que le gouvernement trouve les moyens de pouvoir subventionner ces prix-là.
Ok. Alors, Peter, je crois que vous avez eu la réponse à votre préoccupation.
Effectivement, nous partageons le même point de vue avec le professeur. Mais le deuxième aspect que, monsieur Jean, que je voudrais aborder, c'est par rapport aux solutions proposées par Simon et également ce que le professeur vient de dire concernant la gestion maintenant au niveau du gouvernement central. Je pense qu'à ce niveau, nous avons un problème comme Simon a insisté parce que aujourd'hui nous subissons les causes de la mauvaise gouvernance du pays. Sinon, M. Julien, je veux vous préciser que même dans le territoire de Dekessé, il y a le pétrole qui est en train de qui chôme là-bas. Donc, il y a un manque de politique de gestion globale du pays concernant la gestion des produits pétroliers aussi au Congo. Donc, je pense que cette situation de pénurie, ça risque encore de revenir si nécessairement il n'y a pas de mesures anticipatives prises au niveau du gouvernement central et également aussi par les opérateurs pétroliers. Si cela n'est pas fait en avance, nous allons toujours revivre la même situation. Et vous-même, vous avez constaté, même le professeur l'a dit, il y a eu montée des prix des transports ici à Kinshasa. Donc, en un jour seulement, si cela prenait deux jours, trois jours,
ça serait
vraiment catastrophe pour le bien-être des Congolais.
Voilà.
Comme nous sommes les Congolais, alors, le gouvernement doit prendre...
Est-ce que vous partagez l'avis que... parce que vous avez évoqué le problème de gouvernance. Est-ce que vous reprochez aux dirigeants d'avoir trouvé, à chaque fois qu'une telle situation se reproduit, des solutions conjoncturelles, au lieu de s'attaquer ou à proposer des solutions structurelles? Ça pourrait nous mettre à l'abri.
Oui, il y a un problème, monsieur JR. Le problème, c'est que nous avons un gouvernement qui prend souvent des décisions en retard lorsqu'il y a des conséquences. Mais nécessairement, on devrait anticiper ce genre de situation pour que les choses ne puissent pas vraiment revenir.
Alors, la grande question, à quoi ça sert maintenant la commission socio-économique, la commission qui est censée apporter quelques orientations et donner des orientations au gouvernement et même alerter, hein, parce que s'il y a des situations pareilles. Alors, donc, c'est la grande question. Le débat est ouvert. Merci beaucoup, Peter. Alors, Jeannot, vous êtes...
Merci, M. JR.
Voilà, Jeannot, vous êtes avec nous. Vous nous avez rejoint. Bonjour, Jeannot.
Bonjour Gérard, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre réaction par rapport à cette situation des pénuries de carburant constatée dans la ville de Kinshasa, mais on nous signale quand même dans quelques villes du pays et également cette situation s'est observée.
Tout à fait, Gérard. Ici à Kananga, le litre d'essence coûte 4 500 francs congolais par litre. Donc c'est un problème sérieux. Le problème, la faute incombe au gouvernement qui n'est pas prévoyant. Sous d'autres cieux, pendant cette période de conflit, il y a ce qu'on appelle le stock stratégique. Le gouvernement arrive à identifier les produits qui sont utilisés par la population et ils font des stocks. Donc pour notre pays, ces stocks-là n'existent pas. Eh bien, nous sommes en train de subir de plein fouet les aléas de cette guerre qui se passe très loin de chez nous. Donc ça, c'est un problème très sérieux. Donc il y a aussi un autre problème, JR. En tout cas, il ne faut pas se voiler la face, c'est que certains politiques sont en train de se frotter les mains. Vous savez très bien que l'économie de notre pays est entre les mains des prédateurs qui sont venus, d'ailleurs, il ne faut pas citer les noms, mais ces gens-là tirent le ficelle pendant cette période où ils augmentent les prix, par exemple, ils retirent le carburant. Comme ça, la population va se soulever et le régime en place...
À croire la déclaration de certains opérateurs, en tout cas des grands opérateurs pétroliers, il n'y a pas eu pénurie et il y a peut-être le fait d'attentisme dans les chefs de certains opérateurs pétroliers qui n'ont pas assez de capitaux consistants. Alors ils ont préféré, par effet d'attentisme, anticiper pour demander au gouvernement la hausse du prix. Et voilà qu'ils ont fermé leur station-service.
C'est un fait d'annonce, Gér. Pour moi, en tout cas, est-ce que notre pays a un stock stratégique? La présence de carburant dans les stations prendra combien de temps? Pour moi, ça ne va pas durer puisque le gouvernement lui-même ne s'est pas impliqué pour qu'il y ait suffisamment de carburant dans notre pays. Un de mes collègues l'a dit, en tout cas. Quelle est la politique du gouvernement sur le dossier, en tout cas? Est-ce que notre pays est incapable de commencer à raffiner comme ça s'est fait en Angola, comme d'autres pays voisins sont en train de le faire? Nous avons suffisamment du carburant au Bas-Congo. Un collègue l'a dit, il y a du carburant dans le territoire de Dekessé. Mais tous les régimes qui se sont succédés, qu'est-ce qu'ils font finalement, GR? Donc nous sommes en train de subir les aléas. Rien ne fait. Donc un régime passe, 5 ans passe comme ça, rien ne fait pour qu'on trouve des solutions idoines à des problèmes comme ça.
Merci beaucoup, Jeannot, d'avoir appelé 081-890-6330 ou encore www.radiocapi.net et vous pouvez également commenter ces sujets sur notre page Facebook.
Le magazine des Nations Unies. Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Parole aux auditeurs.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui reçoit pour vous professeur Bobo Kayembe, économiste, et nous venons de suivre cette série des auditeurs. Professeur, finalement, à croire les uns les autres, cette pénurie n'est pas réelle et ne pouvait même pas l'être si jamais on s'était pris bien avant pour éviter cette catastrophe.
Oui, si on s'était pris bien avant, mais les choses qu'il faut faire sont quand même assez complexes, hein, parce que il y en a qui disent qu'on peut raffiner le pétrole produit à Moanda, on peut le raffiner à Moanda même, mais ça va demander de pouvoir mettre en place une nouvelle raffinerie même. Hein. Mm-hmm. Je crois que la raffinerie de Moanda est déjà obsolète. Il faut une nouvelle raffinerie, donc il faut des investissements qui ne sont toujours pas à la portée du gouvernement. Mmh. Parce que le gouvernement, son travail, son rôle n'est pas de pouvoir faire des investissements comme tel, mais de trouver des investisseurs privés qui peuvent le faire. Je sais que dans la raffinerie de Moanda, le gouvernement est en partenariat avec une entreprise italienne. Je ne sais pas si ce partenariat continue, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut une nouvelle raffinerie. et une nouvelle raffinerie pour des produits que nous n'avons pas, parce que le gouvernement ne produit pas. Mmh. C'est Perenco qui produit, c'est une entreprise privée qui a sa propre politique. Il faut s'entendre avec elle pour qu'elle puisse changer de politique. Et je pense que ce n'est pas une mince affaire. En ce qui concerne les stocks stratégiques...
Mais il existe quand même des gisements très importants, des gisements pétroliers dans notre pays. Je crois aujourd'hui même les débats sur les blocs 5 au niveau du Nord Kivu, qui constituent à alimenter la toile, et sur le plan international même. Alors, il y a un auditeur qui évoquait des caissés qui régorge également un gisement important. Alors, pourquoi le gouvernement ne peut-il pas exploiter cela?
Bon, des caissés, oui, on en parle, parce qu'il y a des études sommaires qui avaient été faites du temps colonial. Mais ces études n'ont pas été vraiment confirmées après l'indépendance. Je pense même qu'il y a des opérateurs dont on parle beaucoup, qui sont passés par là, qui ont reçu des concessions. Cette concession des caissés n'est plus libre, à ma connaissance. Elle aurait été attribuée à un opérateur connu de tout le monde. Donc, je crois qu'il faut une étude. On ne peut pas dire comme ça qu'il y a de grandes quantités de pétrole. Il faut une étude qui puisse confirmer l'existence de ces stocks-là éventuels. Mais là où il y a des promesses, c'est en Ituri, sur le lac Albert.
Lac Albert, le bloc 5.
Je crois qu'il y a des promesses. Parce que, en fait, du côté de l'Ouganda, on va commencer déjà à exploiter. Et du côté du Congo, avec tout ce que nous avons comme guerre, etc., nous avons été perturbés. Mais là, il y a des promesses, mais ce ne sont pas des promesses à court terme. Hein. Mm-hmm. Il faut prendre peut-être 5 ans, 10 ans pour qu'on commence à produire là-bas en Ituri. Que la guerre se termine, on prend 5 ans ou 10 ans avant de commencer à produire. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas quand même qu'on puisse... faire des déclarations, dire que nous sommes un grand pays pétrolier, etc., sans avoir des études bien faites qui établissent l'existence.
Donc, si je comprends bien, il faut des solutions structurelles et non des solutions conjoncturelles.
Ah, il faut des solutions structurelles. Il faut, comme les États appliqués du temps colonial. Vous savez que du temps colonial, les pétroliers n'étaient pas concentrés à Kinshasa, hein. Les pétroliers étaient répartis sur l'ensemble du territoire national. Ils avaient des dépôts de stockage de carburant sur l'ensemble du territoire national. Donc, tu es au fin fond du village, tu pouvais accéder au pétrole, à d'autres produits nécessaires pour faire fonctionner les moulins et d'autres. Et aujourd'hui, tout est concentré à Kinshasa, à Lubumbashi. Il n'y a pas de politique pétrolière. Il n'y a pas de politique pétrolière. Donc, comme il n'y a pas de politique pétrolière, c'est chaque petit opérateur qui fait ce qu'il veut. C'est ainsi qu'on parle de 5 000 francs le litre à Kananga, parce qu'il n'y a pas de politique, et notamment de stockage de produits à travers le territoire national.
Voilà, c'est un problème.
Il faut aussi la circulation des produits, c'est-à-dire qu'il faut des routes.
Des routes, voilà.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de routes. Comment le produit va circuler sur le territoire
aller,
national?
Voilà. Alors, on va poursuivre cette émission avec les auditeurs et avec vous. Nous vous gardons en ligne, professeur. Il est temps d'accueillir Alidor, qui est à Kananga, et Christian à Kinshasa. Alidor, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour, professeur Babouaka Yembe. Nous disons ceci, monsieur le journaliste. Ce qui est arrivé dans notre pays, c'est une leçon pour le gouvernement congolais. Parce que gouverner, c'est prévoir. Mais on a toujours gouverné en République démocratique du Congo, sans prévenir, M. Gilles, parce qu'aujourd'hui, là, par défaut des stocks stratégiques, on ne pouvait que s'attendre à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que l'État lui-même n'a pas ses propres capitaux. L'État lui-même n'a pas de produits, de réserves. C'est comme ça que les opérateurs économiques qui sont à la recherche d'argent, alors ils font tout, par tous les moyens, créer la rareté sur le marché. Cette rareté qui est créée sur le marché, c'est en connaissance de cause. Pour qu'il y ait spéculation, et c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui...
Oui, mais maître Alidor, mais la cause extérieure est connue, c'est la guerre en Ukraine.
Non, mais c'est, je, ça, ce n'est qu'un prétexte. Cette situation a quand même commencé avant même que la guerre en Ukraine ait eu lieu. Si peut-être la Kinshasa n'avait pas encore senti cela, mais nous qui sommes au niveau de l'intérieur du pays, il y a déjà plus de 5 mois, au niveau de la région du Kassai, le carburant était allé jusqu'à 6 000, 7 000, voire 8 000 francs, monsieur Chier. Donc ça, ce n'est qu'un prétexte qu'on est en train de se lever aujourd'hui, mais la situation qui est arrivée, c'est juste les défauts de prévoyance dans les chefs du gouvernement congolais. Parce que qu'est-ce que l'on devait faire, monsieur JR? Nous ne sommes plus dans l'état gendarme, nous l'avons toujours dit. Nous sommes pendant l'état interventionniste. L'état ne laisse pas les opérateurs économiques se comporter comme maîtres du marché. Alors, ils doivent être, donc, chaque fois être recadrés pour faire respecter la loi. Mais comme nous avons des détenteurs de capitaux qui sont des expatriés et ils sont des intouchables, ces gens-là, on leur avait laissé les monopoles et aussi les libres arbitres sur le marché. C'est comme ça, monsieur Gilles, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'État interventionniste doit recadrer les opérateurs économiques. On doit prévoir un cadre permanent de concertation entre opérateurs économiques et ministère de l'économie. C'est au sein de ce cadre permanent de concertation qu'on va chaque fois lever les bonnes options pour ne pas connaître ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans le secteur des transports. Aujourd'hui, c'est dans le domaine pétrolier. Demain, ça sera dans tel autre domaine et il y aura péril à la demande.
Merci beaucoup, Alidor, maître Alidor, d'avoir appelé de Kananga. On revient à Kinshasa avec vous, Christian Politassi. Bonjour Christian. Oui.
Bonjour, bonjour à l'invité.
Quelles sont selon vous les causes qui ont fait qu'on puisse connaître cette pénurie de carburant dans la ville de Kinshasa et cela s'est fait signaler dans d'autres villes à travers le pays?
Je crois que pour mieux cerner les causes qui ont milité à ce que nous connaissons cette situation, en tout cas, il faudrait faire, je dirais, une étude dans le temps et dans l'espace. Et comprendre déjà ici que c'est à cause de notre système économique qui est, on ne peut plus, en tout cas, essentiellement extraverti. Ce qui démontre, nous affirmons que cette réalité des choses, en tout cas, feront tout simplement de nous qui vivent de cette économie. En tout cas, nous allons continuer à subir les effets pervers de tout ce qui se passe ailleurs. Et donc voilà pourquoi j'ai aujourd'hui l'impérieuse nécessité est tout simplement que nous puissions migrer dès à présent de l'économie extravertie pour aller justement vers une économie introvertie. Donc cela permettrait justement à la RDC de devenir désormais l'acteur de l'histoire et non plus jamais l'objet de l'histoire. Parce que ce genre de situations pourront encore se produire lorsque ceux qui sont plus forts arrivent à produire c'est quelques produits stratégiques. Et ils peuvent à tout moment créer une situation qui va nous affecter directement. Et du coup, il y aura des conséquences dans la vie nationale. Il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait vraiment faire changer les modèles économiques de la RDC. Commencer à produire ici localement. Et là, nous permettrait, quelles que soient les situations qui pourront, en tout cas, faire surface sur le plan national ou sur le plan international, nous serons, en tout cas, je dirais, un peu épargnés. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons justifier ce fait par la guerre en Ukraine. Mais dites-vous, est-ce que les pays comme les États-Unis, la France, subissent ce que nous subissons au même degré? Je dirais non. Parce qu'eux, en fait, ils ont une économie qui, en tout cas, est appuyée d'abord sur la production locale. Et cela leur permet de faire face par rapport à ce genre de situation. Donc, nous pouvons aujourd'hui dire que, voilà, le gouvernement a pris quelques mesures pour essayer en tout cas de maîtriser les choses pour qu'il n'y ait pas, la flambée des prix, etc., dans les prochains jours. Mais si nous continuons toujours avec cette politique qui vise tout simplement d'aller ailleurs pour asseoir notre économie, nous allons, en tout cas, comme je l'ai dit hier, continuer à subir. Nous ne pouvons pas aujourd'hui subir, étant donné que les richesses que nous avons, en tout cas, c'est en fait une réponse qui fera de nous un pays solution. Alors, ces richesses ne peuvent faire de nous un pays solution que lorsqu'ils sont transformés à un besoin réel de la population. Continuer à dire que la RDC est un scandale géologique sans pour autant transformer ces richesses au besoin réel de la population, j'y ai, en tout cas, je dirais que C'est un sens de discours.
Voilà, donc si je comprends bien pour vous, vous ne comprenez pas, en tout cas vous trouvez que c'est trop paradoxal que la RDC soit pays solution, mais en même temps qu'il puisse être frappé de plein fouet par cette pénurie du carburant notamment.
Donc, vers le niveau, cela veut dire que les richesses que nous avons, étant pays solution, ne deviendra réellement des réponses à nos besoins que si nous nous mettons à transformer ces richesses. Donc, aujourd'hui, Dieu, tout simplement, nous avons des richesses, nous avons essayé.
Et que nous voilà. Nous sommes assis sur des richesses.
En tout cas, rien ne sera changé.
Merci beaucoup, Christian.
Il est temps que nous puissions commencer à transformer ce que nous avons.
Merci beaucoup, Christian. Alors, Kalogi, quelle est votre position par rapport à ces débats?
Oui, merci pour nous avoir associés à ce débat, Monsieur Gire, et bonjour à notre invité. Je pense que ce que vous avez constaté à Kinshasa, moi je dirais que c'est comme si Kinshasa devient la République démocratique du Congo. Pourquoi je le dis? Parce que la situation que vous décriez aujourd'hui à Kinshasa, c'est une situation que nous, dans les grands Kassa, je parle d'abord de ma province, c'est une situation que nous avons vécue il y a, je peux vous dire que nous totalisons presque une année, où ici nous avions payé un litre d'essence jusqu'à 10 000 francs. Quand je vous parle ici, c'est 6 500, 7 000. Mais aujourd'hui, quand nous avons vu ça à Kinshasa, je pense que les gens, il s'agit pour le moment, c'est parce que Kinshasa devient la République démocratique du Congo. Mais cela ne tient pas, M. Juet. Je vous informe que la loi de l'offre et de la demande vraiment, donne la solution à tout ça. Quand il y a rareté, je crois, monsieur l'économiste qui est là, que je connais bien, mais j'ai toujours lu, en tout cas, il ne peut pas nous contredire. Aujourd'hui, là, si notre État se limite au niveau seulement de ses tâches régaliennes, d'abord les tâches qu'il n'arrive même pas à honorer normalement, je ne vois pas comment notre État congolais peut devenir aujourd'hui un État interventionniste où qui peut se transformer lui-même en un opérateur économique. Ici, je vais dire ceci. Quand l'État laisse le monopole aux autres opérateurs économiques qui peuvent se substituer à un État, qui peuvent donner le prix comme ils le veulent, moi je trouve que ça peut arriver tel que nous le constatons. Dire aujourd'hui que c'est la crise en Ukraine, dire aujourd'hui que c'est parce qu'il y a la guerre en Russie, tout ça, moi je dis non. Le grand problème ici, c'est que les marchés doivent s'autoréguler. Ça signifie quoi? Quand il y a la quantité qui est inférieure à la demande
supérieure à
l'offre, automatiquement, ça se fait comme ça dans les marchés normaux, c'est-à-dire vous allez trouver que les prix vont hausser. Mais qu'est-ce qui peut se faire? Moi, je trouve que notre État congolais doit faire quoi? Aujourd'hui, c'est situé aussi à un opérateur économique. Faire face à ces gens-là, comme ils sont là, bien qu'on peut régler par le ministère de l'économie, par les inspecteurs, mais que lui-même là se substitue, c'est-à-dire aujourd'hui là, il peut aussi importer, il peut aussi faire des réserves pour que au moment où il y aura carence, lui l'État peut faire sortir sa réserve et faire face à cette situation. Moi je trouve que c'est notre État qui a des problèmes. Quand il laisse le monopole aux secteurs économiques, nous pouvons vivre ce que nous vivons. Mais je regrette parce qu'aujourd'hui, comme Kinshasa a senti aussi ça, vraiment, je sens que les gens s'agitent parce que Kinshasa devient la République du Congo, mais nous, au Kassai, nous souffrons, et réellement nous souffrons de cette denrée vraiment qui est stratégique dans le monde.
Merci beaucoup, Kalogi, d'avoir appelé Dembujimayi. Alors, on va prendre Alain Kongolo, qui est également à Kananga, dans les Grands Kassai. Alain Kongolo, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Gère. Bonjour, Gère, et bonjour à la radio Okapi et l'invité qui est sur les plateaux.
Quelle est votre réaction à ce niveau du débat?
Merci beaucoup, Monsieur Gère. Je suis l'homme le plus heureux parce que, toutefois, vous m'associez à ce niveau du débat pour contribuer aussi et donner une petite réflexion par rapport à ce débat citoyen. Donc, quant à moi, d'emblée, je dis que le ministre des hydrocarbures, Monsieur Didier Boudimbou, doit démissionner. Donc, moi, je réclame sa démission pure et simple. Comment ça fait-il que quand Boudimbou était nommé dans ce gouvernement de Jean-Michel Samalokonde, que tout le monde a appelé un gouvernement des warriors, donc des guerriers. Et donc, les hommes qui étaient censés pour travailler en faveur de la population, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, ces gens-là veulent toujours travailler pour leur poche ou leur famille. Donc, ils ont oublié la population ou les peuples d'abord.
Mais qu'est-ce que le ministre a fait? Oui, quelle est sa part? Quelle est sa responsabilité? Est-ce que sa responsabilité est vraiment engagée dans cette affaire?
Oui, quand il y a déjà une hausse des prix des produits pétroliers sur les marchés, je prends l'exemple des Kananga ici dans la province du Kassai Central. Un litre d'essence coûte 4 000, il y a certains qui les vendent même à 4 500, imaginez-vous. J'étais dernièrement à Tshikapa, j'ai fait une tournée à Tshikapa vers Kinshasa, moi-même j'étais même à Kinshasa là la semaine dernière, j'ai vu que les prix de ces produits pétroliers a commencé à galoper dans les stations de vente de ces produits-là, à Kinshasa, même à travers les pays. À Lubumbashi, n'en parlons pas. Mais cette hausse ici montre l'incapacité de ces ministres-là. Raison pour laquelle je dis que c'est une faillite et les ministres n'ont qu'à démissionner et laisser la place aux autres. Comment ça fait-il que pour régler les prix de ces produits pétroliers pose problème? Bien qu'il avait passé à la radio, à la télévision nationale, à RTNC, pour dire que non, les prix n'y a pas pénurie. Il y a des camions sternes qui ont commencé à sillonner la ville de Kinshasa pour ravitailler certaines stations à ces produits pétroliers. Mais je trouve que c'est une faillite et c'est une défaillance. Donc, le ministre doit laisser la place parce que moi, je trouve que, en tout cas, cette hausse-là a augmenté les prix des transports en commun. Aujourd'hui, une faible distance qu'on pouvait prendre à 500 francs, 400 francs, aujourd'hui, nous payons 1500, nous payons 2000. Donc, ce qui nous donne que nous n'avons pas encore l'espoir, le ministre n'a qu'à trouver une autre solution qui n'est d'autre que démissionner et laisser cette place-là.
Merci beaucoup Kaloji. Nous allons prendre, pardon, Alain Kongolo d'avoir appelé de Kananga. On reste dans la ville de Kananga pour donner la parole à Maître Deogracias. Maître Deogracias, bonjour.
Bonjour Monsieur J.R., bonjour aussi aux milliers de Congolais. Concernant, n'est-ce pas, cette thématique, nous posons, n'est-ce pas, certaines questions de savoir pourquoi, n'est-ce pas, notre République ne peut pas être souveraine sur certaines choses qui déjà révoluent dans certains États, mais chez nous, ça fait toujours, n'est-ce pas, la question à la une. Donc, la hausse des prix, qu'elle soit des denrées alimentaires, qu'ils soient, n'est-ce pas, des produits pétroliers, à peu près pétroliers. Donc, ça émane des recommandations ou soit des devoirs primaires que l'État peut, n'est-ce pas, garantir à ses citoyens. Monsieur Juillet, gouverner, se prévoir. Il fallait, n'est-ce pas, que l'un État ne puisse...
Oui, allons droit au but. Alain, pardon, Deogracias, à qui incombe la responsabilité? Est-ce la faute des opérateurs pétroliers? Est-ce la faute du gouvernement? À qui revient la responsabilité dans cette affaire que nous avons observée à Kinshasa, la pénurie de pétrole?
Gouvernement, parce que le gouvernement doit garantir ces secteurs-là, pourvu qu'à tout moment qu'on ne puisse pas avoir des ruptures lorsqu'il y a des petites tensions, n'est-ce pas, dans des États et les États lointains. Ici, chez nous, nous voulons les retomber sont directes sur la RDC. Le gouvernement doit d'abord préconiser comment, n'est-ce pas, avoir même des grands stocks pourvu que même s'il y a rupture ailleurs, mais en RDC qu'on ne puisse pas ressentir cela sur les équipes quotidiennes de la population. Mais en RDC, c'est tout à fait parallèle. Dès que les tensions sont ailleurs, les retombées c'est toujours ici. Nous commençons à chercher comment, n'est-ce pas, à faire revivre la situation, n'est-ce pas, au pays. Même ici, chez nous, les prix des transports ont haussé d'une manière que vous n'avez pas d'idée. Et avec des chaleurs, avec tout, la population se met en mal. C'est ce qui fait que notre gouvernement n'est pas un État à providence. Parce que l'État providence doit garantir les droits socio-économiques d'un État. Cela doit être, n'est-ce pas, pris en compte parce que c'est un droit constitutionnellement garanti. On ne peut en aucune fois, à tout moment, recourir nécessaire des solutions en aval plutôt qu'en amont qu'on doit chercher des solutions avec le gouvernement. Voilà en bref ce que je peux dire quant à ce M. Juillet.
Merci beaucoup, Maître Deogracias. Alors, on revient à vous, professeur Bobo Kayembe. Est-ce, disons, les prix que vient de payer notre économie qui est du reste extravertie?
Oui, notre économie est extravertie. Nous n'avons pas pu, depuis l'indépendance, modifier cette situation. Parce que modifier cette situation, c'est se mettre à produire localement, à se mettre à transformer localement. donc mais se mettre à transformer localement veut dire avoir des infrastructures, notamment avoir l'énergie, l'électricité nécessaire pour transformer et avoir également les routes, comme on a cessé de le dire. Parce que lorsqu'on a transformé localement, on cherche à accéder au marché le plus important. Et lorsqu'on transforme, par exemple, à Kikwit, on cherche à accéder à un marché de, au marché de Kinshasa. Mais s'il y a 50 barrières sur la route qui vous empêchent d'accéder au marché de Kinshasa, qu'est-ce que vous allez faire? Mais on sait les 50 barrières qui les a placées et pourquoi on n'intervient pas pour les sanctionner. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il y a une responsabilité du pouvoir central, parce que pourquoi on n'arrive pas à lever ces barrières-là? Bon, donc, état providence, et ce n'est pas également une mince affaire. Hein.
Oui, comme le disait tout à l'heure un auditeur, état gendarme, état interventionniste, et puis bon, il faut changer les modèles, autorégulation de l'économie, bon, bref, beaucoup de choses. Comment orientez-vous cela, professeur?
Bon, le problème, c'est que le gouvernement n'a toujours pas les ressources nécessaires pour faire l'état providence. Donc, la politique qui est appliquée dans notre pays, c'est une politique libérale. Bon, une politique libérale, on laisse les opérateurs privés faire, mais l'État peut intervenir également. C'est ainsi qu'on parle de la politique sociale de marché. Essentiellement libérale, mais avec les interventions de l'État, tout en sachant que l'État n'a pas les ressources nécessaires pour le moment. Avec un budget de 6 milliards, l'État ne peut pas faire une politique interventionniste. C'est ça le problème. Donc il y a des blocages par-ci, par-là, mais je suis d'accord avec les intervenants pour dire que ce sont les membres du gouvernement qui doivent débloquer la situation, qui doivent prendre des mesures. Et c'est ce que nous montre la politique pétrolière. Cette politique pétrolière servirait à stocker le pétrole, le carburant, à travers le pays. Pas seulement à Kinshasa, avoir des stocks de carburant, effectivement, pour 3 mois de consommation, 4 mois de consommation, à travers le pays, que tout le monde soit servi, parce que l'activité économique doit se dérouler normalement à l'intérieur du pays, ce n'est pas à Kinshasa. Donc la production de minerais ou les investissements dans je ne sais quel domaine industriel, c'est à l'intérieur du pays, ce n'est pas à Kinshasa. Mais si on n'a pas de carburant, si on n'a pas de pétrole, on ne peut pas le faire.
Voilà. Alors, professeur, on va permettre à Maître Edmond de placer juste un mot, et puis on va conclure cette émission. Alors, Maître Edmond, vous êtes avec nous?
Bonjour, la Radio Capi. Je salue le professeur Kaim.
Voilà. Quelle est votre réaction?
Oui, bon,
vous avez juste une minute.
Oui, ouais, j'ai suivi les uns et les autres, surtout lorsqu'ils font état de... l'État-providence, l'interventionnisme étatique. Moi, je pense que par-dessus tout, même si l'économie est extravertie, donc dirigée vers l'extérieur, c'est toujours la responsabilité de l'État. Donc, il y a un déficit dans le secteur des hydrocarbures, parce que la politique qui s'est faite, vous avez vu que après la réunion d'évaluation du ministre avec le tenancier de donc la CEP, Cohydro, Cobil et consorts, et même se sont prononcés pour dire qu'il n'y a pas une pénurie, il n'y a pas une crise. Et ici, vous allez voir que c'est un problème du ministère de l'économie aussi qui entre en jeu. Pourquoi? Parce que il y a une pratique illicite qui consiste pour le tenancier des stations de pouvoir conserver les stocks et créer une irrarité inutile. Et ça s'observe partout. À Kinshasa et
voilà, je l'ai dit en début de cette émission, l'effet d'attentisme, c'est-à-dire il y a guerre là-bas, ils anticipent les choses avec cette difficulté qu'ils imaginent pour l'approvisionnement. Alors il y a un effet d'attentisme, ils bloquent tout en attendant. Et ils exigent déjà la hausse du prix.
À l'Équateur, on l'a vu ici, à l'Équateur, on le voit, nous avons des stations, par exemple, Kobil, Engen. Vous allez voir que les listes se négocient à 2500 et vous allez voir qu'après 2 jours, c'est 10 000, 11 000. Ils font cette pratique. Pourquoi? Parce que c'est la puissance publique qui est faible. C'est la puissance publique qui est faible. Nous sommes dans un état de la libéralisation des prix où le parti, le commerçant est même fixé les prix. Mais l'État est là, le ministère de l'économie est là pour réguler, voir si les prix se conforment ou ne se conforment pas. On fournit des tactiques de prix, on fournit des structures de prix justement pour ça. Donc c'est un déficit du ministère de l'économie avec le ministère des hydrocarbures. Et ce qui fait que les tenanciers des stations puissent aujourd'hui créer...
Faire la loi. Ça, c'est une Merci beaucoup, maître Edmond. On ne saura pas aller plus loin, les temps nous fait défaut. Professeur, en une phrase, on peut dire qu'aujourd'hui, les modèles économiques que l'autorité a levé comme option, notamment avec le partenariat public-privé, a échoué.
Bon, difficile à dire. Mais je crois que ce sont des modèles qu'il faut continuer à encourager, parce que le gouvernement doit faire son travail, qui est le travail de gouverner, donc le travail d'État gendarme. Mais les opérateurs économiques doivent produire. Donc il faut un partenariat entre les deux. Maintenant, nous sommes une économie extravertie. Il faut travailler beaucoup pour
changer les narratifs.
Économie introvertie.
Merci beaucoup, professeur Bois Kayembe, économiste, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission autour de la pénurie du carburant observée la semaine dernière et qui, du reste, la population redoute que cela puisse perdurer. Et vous avez proposé quelques pistes de solutions, notamment des solutions structurelles qui passent par une vraie politique pétrolière et une politique pétrolière qui reposera également sur la politique des raffinages. De notre pétrole. Merci beaucoup et à très bientôt. Nous disons également merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Dandy qui a été avec nous et également Jean-Claude Siala, Dandy Mopela. Merci et nous allons retrouver demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.